Les cousins nous ont trouvé de radio classique de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des balades zigzags. Et enfin, un brin de culture, c'est dans Découverte. Un rendez-vous radio classique pour des après-midi promeneurs. Découverte, de lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec Nico Jouzeg.
Vous êtes agriculteur ou peut-être vous intéressez à l'agriculture, sachez qu'il y a des techniques qui vont vous aider à réussir la culture des riz. Il s'agit bien entendu d'une culture pérenne. Elle a notamment beaucoup d'exigences et nécessite également un entretien sérieux afin de la mettre à l'abri des maladies qui attaquent souvent la culture du riz. Comment s'y prendre concrètement? Quels sont les moyens qu'il faudrait utiliser pour réellement réussir cette culture? Nous avons dans ce studio l'ingénieur Dibouet Daniel, agronome et chercheur à l'INERA. Bonjour, monsieur l'ingénieur.
Bonjour, Gérard.
Alors, d'entrée du jeu, est-ce que la culture du riz, c'est également une culture pérenne?
Non, la culture du riz n'est pas une culture pérenne, c'est plutôt une culture vivrière, annuelle, qui se cultive peut-être deux, trois fois par an selon les conditions écologiques du milieu.
Mais avec des endroits appropriés pour cette culture?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a deux types de variétés. Il y a, selon les écologies aussi, il y a les riz du bas-fond, les riz irrigués, les riz pluviales. Donc, ça dépend de l'écologie dans laquelle on se retrouve. Et selon aussi les cycles de variétés, parce qu'il y a des variétés de 3 mois, des variétés de 4 mois, de 6 mois, et même peut-être au-delà.
Et le sol idéal qui peut accueillir la culture du riz doit être composé de quels éléments chimiques?
Oui, en principe, le riz c'est une céréale. Les céréales sont plus exigeantes en fertilité du sol. Quand nous parlons de la fertilité du sol, nous voyons la teneur en azote. Donc, il faudrait que ce soit des sols qui sont riches en humus, qui sont des sols où la teneur en azote est assez élevée, où il y a la matière organique. Ce sont des sols qui sont un peu profonds pour la pénétration des racines. Vous savez que les riz a des racines adventives et ça tâle beaucoup. Il faut un sol meuble où les racines peuvent facilement entrer pour nourrir et soutenir la plante.
Sur les montagnes, ça peut passer la culture des...
Oui, parce que nous avons des cultures de montagne, ce qu'on appelle les riz pluviales, on appelle aussi communément riz de plateau ou riz de montagne, mais ça dépend de quel type de montagne, donc il ne faudra pas que ça soit où l'eau coule facilement, parce que quand l'eau coule, la plante a besoin de l'eau et ce n'est pas retenu par le sol, alors il y aura un déficit et ça ne pourra pas très, très bien donner sur des montagnes.
Quels sont les principes indispensables dans la culture du riz? Et comment un agriculteur doit s'y prendre afin de réussir sa culture du riz?
Oui,
la
première chose à faire, c'est le défrichement. D'abord, le choix du terrain. Il faut choisir un terrain qui est approprié. Et selon la variété aussi que vous avez, vous choisissez un terrain qui répond à ce type de variété, à l'écologie convenable. Nous avons parlé de pluvial, nous avons parlé de bas-fond, comme ce qui est souvent utilisé ici à Kinshasa dans les poules Malebo. Et il y a les riz irrigués, là on peut irriguer, souvent c'est dans les plaines. Alors vous choisissez d'abord le sol. Et après le sol, il y a le travail du sol, c'est-à-dire le défrichement, les labours, l'ameublissement du sol. Et il y a maintenant les semis qui doivent se faire. Et les semis doivent se faire au début, si on est dans la culture pluviale, où nous dépendons uniquement de la pluie. À ce moment-là, il faut choisir la date de semis. C'est aussi un facteur important pour la réussite de cette culture. Il y a les entretiens, les riz c'est une céréale et elle est aussi combattue par les mauvaises herbes. Alors il faudra régulièrement faire 2 à 3 entretiens selon l'envahissement des mauvaises herbes. Il y a la fertilisation. Bien sûr que dans la plupart des agriculteurs disent que nos sols sont riches et que ce n'est pas nécessaire d'utiliser les engrais. Mais nous avons fait certaines expériences pour montrer qu'effectivement, quand on ne met pas un peu d'engrais, le rendement est assez faible. Donc, il y a la fertilisation qu'il faut apporter. Et souvent, il est conseillé d'apporter l'engrais en 3 fractions. Il y a l'engrais de fond qu'on utilise juste au semis ou quelques 1 ou 2 jours avant les semis. Il y a l'engrais d'entretien ou de couverture qu'on divise en 2 fractions au talage, parce que nous savons que les ritales, et à ce moment-là, quand les ritales, ça a besoin des éléments nutritifs, alors il faut apporter une fraction d'engrais et la deuxième fraction d'azote, qui est l'engrais de couverture aussi, c'est utilisé à la montée quand les riz commencent à fleurir. Alors, en dehors de ça, il y a aussi des maladies. Il faudra.
Si on va aborder la question des maladies, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les temps échus à chaque période? Pour le choix de terrain, ça vous prend combien de temps? Le défrichement, encore l'ameublissement, ça vous prend également combien de temps? Pour passer à l'eau sémie, voilà. Donc, si vous pouvez peut-être nous donner le temps échu à chaque période là.
Oui, en fait, le temps, ça dépend maintenant de ce que nous pouvons dire, le calendrier culturel. Ça dépend donc de l'écologie. Si nous dépendons uniquement de l'eau, de la pluie, à ce moment-là, il faut que les semis coïncident avec les retours de pluie.
Donc, à partir du mois de septembre.
Ce qui fait que s'il faut choisir le terrain, il faut le choisir déjà au mois de juillet. Et si on va faire le labour mécanique avec les tracteurs, par exemple, on doit le faire déjà au mois d'août ou de septembre ou d'août de juillet.
La première quinzaine du mois de septembre?
Non. Déjà, ça, c'est déjà un peu tard.
C'est très tard.
Et parce qu'il faudrait que les herbes qu'on a enlevées puissent se décomposer et refaire la fertilité du sol. Donc, il faut, si on fait le labour mécanique, il faut laisser à peu près 45 jours depuis le labour jusqu'au semis. À ce moment-là, les herbes sont assez décomposées et à ce moment-là, on va faire le herçage ou le nivellement où on incorpore maintenant les herbes qui se sont décomposées dans le sol et après, on fait les semis. Donc, on commence au mois de juillet et pour semer au mois de septembre ou octobre, parce qu'actuellement, avec le changement de climat, il y a parfois le riz qui est le plus qui rentre un peu tard. Par exemple, cette année, c'est arrivé vers le novembre. Alors, ce qui fait qu'il faudrait que le terrain soit déjà prêt et dès qu'il y a 2 ou 3 pluies. À ce moment-là, on est sûr que les pluies sont rentrées et on peut procéder alors au semis.
Voilà, donc les temps, c'est par rapport à la variété dont vous avez dit. Donc,
oui.
Si nous sommes, on est dans la culture pluviale,
oui.
Par exemple, on se déploie.
Oui, ça, par contre, si on a l'eau qu'on va apporter volontairement, c'est-à-dire irriguer
à ce moment-là, par le fleuve,
par exemple, oui. Par exemple, à ce moment-là, par exemple, la saison sèche,
comme c'est le cas des agriculteurs pour le malébo.
Oui, dans les premiers malébos, on ne fait pas la culture irriguée. C'est l'agriculture de bas fond où ils profitent seulement de l'eau qui stagne. Donc, c'est une culture un peu inondée en partie. Mais c'est toujours la culture pluviale parce qu'on dépend uniquement de pluie. Mais par contre, si on fait l'aménagement de ces poules malébo, à ce moment-là, on peut maîtriser l'eau, c'est-à-dire on peut apporter l'eau quand on le veut et le retirer parce qu'il y aura des canaux d'évacuation, des canaux d'alimentation. À ce moment-là, on peut faire même plusieurs cultures par an.
Mais il serait vrai qu'un terrain marécageux, c'est quand même un terrain favorable à la culture.
Bien sûr, parce que là-bas, les variétés du bas-fond produisent beaucoup, produisent plus que les variétés pluviales. Et avec les limons qui est apporté par le fleuve, quand l'eau se retire, ça laisse l'humus et là, le sol est un peu plus risqué dans les montagnes.
Oui. Alors, nous remarquons parfois, après, après récolte, hein, la taille de riz, parfois c'est un peu différent. Il y a des riz de longue taille, il y a d'autres où simplement c'est court. Hein. Qu'est-ce qui influe la taille de riz, notamment?
Oui, en principe, à ce moment-là, monsieur Jou, il faudra faire attention parce que ça dépend de la semence. Ça peut être une semence dégénérée où il y a plusieurs variétés déjà. C'est ce qui fait qu'on remarque parfois il y a telle taille et telle taille sur le même champ. Ça, c'est dû à la semence qui n'est plus pure. Il y a déjà un certain mélange de plusieurs variétés. Parce que vous savez que les paysans, souvent, n'utilisent pas une seule variété. Alors, quand ils les récoltent ou quand ils sèment sur le même champ, il y a mélange. Mais, quand c'est une variété qui est pure, la taille est presque homogène.
Mais alors, aujourd'hui, la semence, vous, en tant que spécialiste, vous conseillerez, par exemple, aux agriculteurs ou à ceux qui aimeraient bien, qui s'intéressent à l'agriculture, qui aimeraient bien se lancer dans la culture du riz, d'utiliser notamment quel genre de semence?
Il faut utiliser la semence pure.
De quelle origine?
De la
indienne, japonaise.
En fait, ici, nous avons des variétés qui sont adaptées à nos milieux. Il y a des variétés chinoises qui sont cultivées ici, notamment au B6. C'est une variété chinoise qui est bien adaptée, qui produit beaucoup, qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi certains défauts. C'est une variété qui donne très bien dans les poules Malibu, par exemple. Nous avons la variété City, et nous avons par exemple la variété Jasmine, qui est très préférée à cause de son arôme. Mais nous avons aussi d'autres variétés actuellement du riz que nous appelons les riz Nerica. Nerica, qui est un riz qui est produit ou mis au point par le Centre du riz pour l'Afrique, basé à Cotonou, au Bénin. Et Nerica veut dire en français nouveau riz pour l'Afrique et en anglais c'est la même chose, New Age for Africa. Donc ces variétés-là, il y a des variétés de bas-fond, il y a des variétés pluviales, irriguées aussi. Ce sont de très bonnes variétés qui sont adaptées aussi dans nos conditions. Et c'est une variété qui est issue de croisement du riz asiatique. Sativa avec les riz africains, Glaberima. Donc, ça a la facilité de s'adapter, de résister aux maladies qui sont des caractéristiques issues du parent Glaberima, mais il y a aussi les goûts et la forme des graines qui est issue des parents japonais.
Alors, une curiosité, quelle est la variété alors des semences qui ne sont pas compatibles à notre écologie et au climat, à RDT par exemple?
La plupart de ces variétés sont adaptées, mais ça dépend du fait que la plupart ont été utilisées déjà pendant longtemps. Il y a retour parfois au caractère des parents, il y a le mélange, ce qui fait que ce n'est plus pire, mais la plupart sont des variétés qui sont utilisées, ce sont des variétés adaptées. Mais aussi, il y a un autre facteur que nous recherchons dans ces variétés améliorées, c'est la productivité. Parce qu'il faudrait qu'à l'unité de surface, on puisse avoir un grand rendement.
Oui, voilà, nous vous rappellerons nos moyens de contact, le 081 890 63 77 pour les appels, et le 081 070 20 50 pour les SMS. Vous êtes agriculteur, et surtout vous qui travaillez dans les poules Malibu, hein, vous faites la culture des riz dans le bas-fond, hein, voilà, donc vous avez peut-être des préoccupations, n'hésitez pas, nous avons dans ce studio l'ingénieur Guy Boué, Daniel, agronome et chercheur à l'INERA, qui pourrait répondre à vos préoccupations et pourquoi pas à vos questions. Vous qui êtes à travers le pays, et surtout que nous on est très informés que la partie est notamment est agro-pastorale. Il y a pas mal et un nombre important d'agriculteurs qui aimeraient bien intervenir aussi dans cette émission, donc n'hésitez pas à composer ces deux numéros pour poser vos questions.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Okapi vous propose la tribune de la presse. Des analyses, des explications et un débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. La tribune de la presse, c'est l'actualité vue par ceux qui la traitent. C'est aussi sur le site internet de Radio Okapi, www.radiookapi.net.
John Peter nous appelle à Isiro. Bonjour John.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'ingénieur.
Votre question?
Ok. Je reviens du territoire de Niangara, dans le Haut-Ouélé, où il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de l'agriculture. À ce propos, il y a l'organisme ACES, Action contre la faim, qui a distribué beaucoup de semences améliorées, dont plusieurs variétés du riz. Il s'est fait malheureusement qu'après avoir semé ses paddies, l'une de ces variétés a été déclarée par la suite sauvage, alors que les paysans l'avaient déjà semé. Ma question est celle-ci. Comment une semence améliorée ou OGM peut-elle devenir par la suite sauvage? C'est la question que je voudrais poser à l'ingénieur.
Merci John Peter d'avoir appelé de Isiro. Nous avons Karem à Arou. Bonjour Karem. Bonjour Karem.
Bonjour ingénieur.
Oui, allez-y, votre question.
Ok, moi je suis de Arou. Mon problème est que nous suivons très souvent sur la radio Papi. Vous parlez de l'agriculture, vous parlez du riz. En tout cas, ça nous intéresse. Alors nous, de notre côté, nous faisons l'effort pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui se situe au niveau de notre territoire d'Arou. Alors, comme vous parlez du riz, le riz se comporte très bien, que ce soit à la savane, que ce soit au niveau des bas-fonds. Avec les variétés locales, nous arrivons à récolter de bons rendements. Alors, maintenant, les variétés que vous expérimentez au niveau de Kinshasa, nous en avons besoin. Alors, comment peut-on avoir ces variétés que vous exploitez pour que nous puissions expérimenter ici à Arou? C'est ça ma question.
Merci beaucoup, Monsieur Karem. Nous avons l'ingénieur Dibé Daniel dans ce studio. Ingénieur, nous parlons d'abord, nous prenons la première réaction de John Peter, qui a parlé du territoire de Niangara, où certaines semences ont été déclarées sauvages après les avoir déjà utilisées. Et puis à Arou, notre auditeur Karem a parlé de la culture sur les savanes et les bas-fonds, ça marche très bien, mais il aimerait avoir accès aussi aux variétés qui sont utilisées ailleurs pour peut-être enrichir un peu la culture également. Alors, que répondez-vous à ces deux questions pertinentes?
Merci. Je pense que ce sont de très bonnes préoccupations qui rencontrent nos soucis. C'est pourquoi l'INERA est là, c'est pourquoi la recherche est là. Et la recherche ne travaille pas aussi seule. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires, notamment le service national des semences du ministère de l'Agriculture. Nous travaillons avec le programme national des riz. Et j'aimerais dire que ce qu'on a constaté, par exemple, de ces semences qui sont déclarées sauvages, c'est le fait que la plupart de ce qu'on distribue sous l'étiquette semences n'est pas réellement semences. Il y a des critères pour que quelque chose soit déclaré semences. Il y a l'homogénéité, il y a la pureté, il y a le rendement, il y a l'uniformité et le pouvoir germinatif, et ainsi de suite. Alors, la plupart de ce qu'on distribue, bon, je pense que je ne sais pas, peut-être critiquer les ONG, mais nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui entrent de partout sous l'étiquette de la semence, mais qui n'est pas semence. Et c'est pourquoi le service national des semences est là pour se fier, pour examiner, tester si réellement cela répond aux critères de
l'élément. Le dont vous parlez, c'est le SENASEM.
SENASEM,
oui, au niveau du ministère de l'Agriculture.
Le ministère de l'Agriculture.
Qui se trouve actuellement à l'IMETE.
À l'IMETE, ils ont un laboratoire aussi maintenant aujourd'hui sur Willery. Sur 24.
Oui, en face de l'IMETE. Au secrétariat général de l'Agriculture.
Voilà.
Le meuble nouvellement construit.
Oh, tout à fait.
Voilà.
Donc ce service-là est là pour certifier si réellement ce qu'on a semé est semence. Et je peux dire que c'est ça, c'est ce qu'on a semé, ce n'est pas la semence. Nous avons fait beaucoup d'expériences aussi avec des paysans aussi ici, dans les poules Malébo, en semence, qui savent que semence, et en semence aussi la semence de la recherche, ils ont trouvé qu'il y avait une nette différence. Et c'est ça aussi un des facteurs du rendement. Alors, pour la deuxième préoccupation,
à où M. Tarem a insisté sur la savane et les basses qui marchent très bien,
oui,
mais seulement elle voulait avoir accès aux semences utilisées à Kinshasa et ailleurs.
Oui, en fait, notre PCMCI a vocation agricole, un peu partout, on peut cultiver les riz. Et toutes ces variétés que nous ne les avons pas seulement ici à Kinshasa, par exemple, nous travaillons dans le cadre du projet où je coordonne ici. C'est intitulé amélioration de l'accès des petits exploitants en Erika pour la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un projet régional qui se passe en Guinée, qui se passe en Sierra Leone et ici en RDC. En RDC, nous travaillons par exemple ici à Kinshasa. Nous travaillons dans les Bas-Congo et nous sommes aussi dans la province orientale. Et ces semences se trouvent aussi à Kisangani et à Yangambi. Donc, ceux qui veulent avoir ces semences peuvent écrire, faire leur commande auprès de l'INERA. Nous avons envoyé aussi certaines de ces semences à Bambessa, c'est tout près de Arulava.
Oui.
À Bambessa, ils peuvent aussi contacter l'INERA qui est là. Il y a ces variétés. Nous sommes en train de les diffuser partout. Ça se trouve aussi déjà à Boketa, à l'Équateur, à Bumba, et ça se trouve aussi à Kiyaka, dans les Bandundu. Donc, ces variétés sont disponibles dans les centres INERA qui s'adressent à ces services ou au service de programme national de riz. Mais je pense que pour les programmes RI,
il y a un organisateur que l'INERA est opérationnel à travers le pays.
Tout son réseau travaille.
Voilà. Nous avons d'autres auditeurs qui veulent bien réagir, mais nous rappelons que ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qu'ils peuvent composer le 081-890-63-77. Et ils peuvent aussi le faire au travers des SMS en composant, bien entendu, les 081-070-20-50.
Le réveil avec Radio Okapi, c'est une session d'information en français, en swahili, en kimba, en kikongo et en lingala. C'est aussi des synthèses de l'actualité africaine et internationale, la revue de la presse chinoise et du sport. De 5h à 9h, découvrez qui a fait quoi, à qui, quand, où, comment et pourquoi, avec la session d'information de la matinale de Radio Okapi. Lorsque les jours se lèvent à 5h, Radio Okapi met le Congo à la une des saisons. La matinale de Radio Okapi, c'est de lundi à vendredi de 5h à 9h, heure de Kinshasa.
Nous avons Fiston Cassedo de Lubumbashi. Bonjour Fiston. Bonjour Fiston.
En plus, c'est juste une préoccupation. Je voulais savoir, parce que des fois, nous nous rencontrons devant des problèmes liés au sol. Je voulais savoir, face à un sol sablonné, à certains points de la ville de Lubumbashi, nous voyons des sols sablonnés. Moi, je voulais savoir comment on peut s'adapter à une telle culture de riz sous des conditions pareilles.
Voilà, merci Fiston. Est-ce possible de faire une culture de riz sur un sol sablonné, monsieur l'ingénieur?
Ah oui, c'est possible. J'ai vu autour de Lubumbashi, il y a des gens qui font des riz. J'ai visité notre station de Kipopo, où nous avons aussi introduit ces variétés dont nous parlons. Dans les sols sablonnés, on peut faire les riz, mais il faut apporter assez d'eau et puis il faut mettre la matière organique pour permettre que le sol puisse avoir la capacité de retenir de l'eau. Donc il faut améliorer le sol en apportant la matière organique
c'est possible de faire quand même la culture là-bas.
David Mukinaï, il nous appelle de Kananga, et dit, d'une manière générale, combien de kilos nous a écrit, hein, donc je nous a appelé, il nous a écrit, d'une manière générale, combien de kilos pour un hectare de champ du riz, et dans quel écartement peut-on adapter pour les riz et des montagnes, voilà.
Oui. L'écartement, ce sont oui, en fait, pour nous, les variétés qui sont en diffusion actuellement au sein de l'INERA, nous avons parlé d'Amérique, mais nous avons aussi nos variétés qui sont mises au point par l'INERA. Nous avons par exemple la variété Lieng, nous avons la variété Baibing, il y a les variétés INERA qui sont aussi en diffusion. Et nous utilisons pour toutes ces variétés les écartements de 20 cm ou 20 cm. Et avec ça, nous pouvons utiliser 50 kilos.
Et l'écartement, c'est quoi
L'écartement, oui, l'écartement, ce sont les résistances entre des lignes
voilà.
Et dans la ligne. Donc, le premier chiffre correspond à la distance entre des lignes, du riz, c'est 20 cm. Et dans la, au sein de...
Nous sommes dans le champ.
Dans le champ.
Il y a le plate-bande.
Ouais.
N'est-ce pas? Donc, les lignes qui séparent.
Ouais.
Doit avoir l'écartement de
20 cm. 20 cm. 20. Parfois, nous utilisons pour certaines variétés 25 fois 20. Donc, 25 cm entre les lignes et 20 cm dans la ligne, entre les paupières.
Donc, 20
dans 5. Oui. Et avec, 50 kilos, 40-50 kilos à l'hectare, ça suffit pour couvrir
50 kilos pour l'hectare.
Mm-hmm. Pour les variétés de cuivre, comme il a demandé.
Kaye Kesha de Kindu, là de Somovanima. Bonjour, M. Kayeka. Kaye Kesha.
Bonjour. Bonjour.
Votre question.
Bon, je voulais demander, toutes les variétés que vous citez là-bas, ça se trouve ici chez nous au Maniema. Mais nous regrettons seulement, une fois nous cultivons des grandes étendues, mais nous ne trouvons que des faibles rendements. On ne sait pas tout cela se trouve à cause de quoi.
Allez-y.
Oui, je pense qu'à ce moment-là, il faudra que nous puissions nous rendre sur place pour comprendre quels sont les facteurs qui font que les rendements diminuent. Mais, de prime abord, il faut savoir les problèmes de fertilité des sols, comme je l'ai dit. Je dis souvent que nous disons que nos sols sont riches, mais les céréales, donc les riz comme les maïs, exigent, sont exigeants en fertilité du sol, donc en teneur en azote. Donc, il faudrait corriger cette faible fertilité en apportant un peu d'engrais. Et, mais aussi, avant d'apporter d'engrais, il est nécessaire aussi de faire les analyses du sol pour savoir réellement quel est l'élément qui est déficitaire. Parce que peut-être en dehors de l'azote, il peut y avoir d'autres éléments du sol qui manquent, qu'il faudrait peut-être apporter. Il faudrait voir aussi le pH du sol, comment il est. Parce que
le pH, c'est
le concentré d'hydrogène. Donc, c'est pour qu'il distingue les sols acides avec les sols basiques. Alors, tout cela sont des facteurs qu'il faut pouvoir d'emblée, comme ça, je ne peux pas dire. Et puis, ça dépend aussi de s'il a respecté, ils ont respecté les pratiques culturales, les écartements, les dates de semis, les traitements, et puis les variétés même. Parce qu'on peut avoir les mêmes variétés, mais si ce sont des variétés où ils sont déjà en mélange, je pense que les rendements vont baisser.
Alors parlons maintenant de maladies qui attaquent la culture des riz et comment les éviter.
Oui, la première chose pour éviter les maladies, c'est de chercher des semences à une source sûre. Des semences qui sont traitées et qui sont produites dans les conditions acceptables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je le disais lors de l'émission sur les cafés, c'est d'utiliser les bonnes pratiques culturales. Et ça, on peut éviter déjà d'emblée beaucoup de maladies qui peuvent attaquer et l'entretien même de canaux d'irrigation, parce qu'à travers les canaux d'irrigation, il y a des saletés qui arrivent, même dans des champs qui peuvent amener des maladies. Donc, l'entretien des plantations, des champs est une des conditions nécessaires. Donc, ce sont des méthodes préventives.
Voilà, monsieur Diboué, vous êtes ingénieur Diboué Daniel, agronome et chercheur à l'INERA. Nous vous remercions d'avoir été et des nôtres, et surtout d'avoir accepté notre deuxième invitation, et cette fois-ci pour parler du riz. Bah alors, on prend rendez-vous avec vous l'année prochaine, et peut-être dans les cadres de recherche de l'INERA. Merci et à très bientôt.
Merci.